ندوة. ندوة لقاء إذاعي للحوار في قضايا التربية والتعليم ومسائل البحث العلمي والتكوين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المنظمين، السيدات والسادة الحضور الكريم، باسم السيد رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وباسم جميع العاملين المكتبة الوسائطية بالرباط، وأصلا سنة عن نفسي، يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الحاضرين معنا في هذا الحفل المهم للاحتفاء بمئوية الاتحاد الدولي للفلك تحت شعار 100 سنة تحت سماء واحدة. حضرات السيدات والسادة، هذا الحفل الكريم ثمرة جهود جبارة وشراكة فعالة بين المكتبة الوسائطية ومبادرة الفلك الممتع وجمعية سيتي لإدماج التكنولوجيات الجديدة في تدريس العلوم. أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الخاص للسيد عبد الحفيظ باني، مؤسس مبادرة الفلك الممتع، لما يقدمه من مجهودات جبارة لتنظيم وإنجاح هذه التظاهرة الهامة. كما أغتنم الفرصة كذلك لتقديم الشكر والامتنان لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في العمل على إنجاح فعاليات الحدث الهام وهذا الحفل الكريم. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بطبيعة الحال فمكالمة واحدة تجي معك مع الأستاذ زين العابدين حسيني لمدة 10 ديال الدقائق، ممكن تدي معك واحد المجلد كامل ديال المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، ماذا عساني قوله أمام هذه الوجوه الطيبة سوى تقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في عقد هذا اللقاء الممتع مع هذه الوجوه الطيبة مرة أخرى، ومع أقطاب علم الفلك الذين استمتعنا بهم هذا اليوم. موضوعي بطبيعة الحال ينطلق من الآية الكريمة: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. علم الفلك يعتمد أساساً على العقل وعلى العلم، ولا يعتمد على الخرافة وعلى الأساطير مثل ما يتوهم البعض. وفي هذا الإطار موضوعي هو إبداعات العلماء المغاربة في العلوم والأدوات الفلكية. بطبيعة الحال إن كنا نحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيس منتدى علم الفلك، فإنه علينا أن نفتخر ونعتز بكون علم الفلك لدى المغاربة يرجع إلى 1200 سنة، حينما كانت القرويين يدرس فيها علم الفلك لعلاقته بالتوقيت، والتوقيت له علاقة بالدين باعتبار إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، معنى هذا أن التوقيت حاضر والفلك حاضر. وفي هذا الإطار يمكن أن نتوقف عند تعريف لابن خلدون لعلم الفلك حين يقول: علم ينظر في حركات الكواكب ويستدل بكيفيات هذه الحركات على أشكال وأوضاع الأفلاك بطرق هندسية، ولهذه الصناعة قوانين. معنى هذا ليس لدينا في علم الفلك هكذا العفوية والعشوائية لدى المغاربة. وفي هذا الإطار إن كان الماضي مشرقا ومشرفا فيما يخص علم الفلك، فهو اليوم مشرق ومشرف بوجود هذه الوجوه الطيبة التي تحدث العديد من الأمور في أوكيمدن، وهذا مثال واحد من بين الأمثلة العديدة والمشرفة التي يقف فيها المغاربة كتلك الأهرام العالية أمام دول أخرى وفي جهات أخرى من العالم. سأقسم موضوعي إلى ثلاثة محاور أساسية حتى لا أطيل. هناك علماء ومخطوطات في علم الفلك، أدوات وآلات فلكية، ثم التفسير العلمي للظواهر الفلكية ووظيفية علم الفلك. فبالنسبة للعلماء والمخطوطات، آتي هنا إلى أبي علي المراكشي صاحب كتاب المبادئ والغايات. هو هذا كتابه، قال الشيخ أبو علي المراكشي في كتاب المبادئ والغايات يتكلم عن كيفية العمل بالكرة، وهذا يعطينا أساساً للكرة السماوية، وهذا شيء له أهمية كمبدع مغربي كان على عهد الموحدين. إضافة إلى ابن البناء المراكشي الذي له هذا المخطوط الذي هو الكلام الكلي الضابط لإحكام النجوم، حين يقول هنا: صنعة، أي الفلك، لها ثلاثة أسس، هي البروج الاثنى عشر والكواكب والبيوت، وهذا يؤكد لنا وجود ضوابط في هذا الإطار. كذلك محمد سليمان الروداني
صاحب كتاب بهجة الطلاب في العمل بالأسطرلاب، وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال وهي دقيقة جدا، إضافة إلى علي أبي علي الحسن بن علي محمد الدادسي صاحب منظومة فتح المقيت في شرح اليواقيت، ويعطينا تفاصيل هنا فيما يخص علاقة الفلك بالتوقيت، إضافة إلى محمد بن سعيد بن محمد السوزي الذي كتب بطبيعة الحال هذا المخطوط المهم الذي يسمى بالمقنع في علم ابن أبي مقرع، ويتكلم فيه هنا عن مسائل أساسية فيما يخص علاقة علم الفلك أي وظيفية علم الفلك فيما يسمى بالمنازل. وهنا قد ذكرتم سابقا نموذجا لهذه المنازل التي ترتبط بالمناخ وترتبط بالأعمال الفلاحية وما يرتبط بها من أمور أخرى. كذلك عبد الرحمن بن عمر السوسي الجزولي الذي وضع لنا هنا الأبراج، ووضع كذلك بعض الحروف التي لها أهميتها في مجال الحساب، وهذا يدل على ما كان يسمى بالانتردسيبليناريتي الذي نقوله اليوم. إذا هناك تكامل بين المواد، الحساب مع الفيزياء مع الفلك مع علوم أخرى الجغرافيا، إذن كان هناك تكامل، وهذا ما كان يضفي على علمائنا الموسوعية في تعاملهم مع هذه العلوم. كذلك نجد عبد الرحمن الصوفي صاحب كتاب صور الكواكب الثابتة، وهذا من المخطوطات ذات الأهمية في المجال الفني، وهذا ليس موجود في المغرب للأسف، هذا موجود في المكتبة الوطنية الفرنسية، إنهم ما زالوا يحتفظون به في المكتبة الوطنية الفرنسية تحت رقم 2489، وهذا يدل على أن هذه المخطوطات لها قيمتها لدى الأجانب الذين يترجمونها ويحولونها ويفعلونها. ولكن بالأسف نحن بقينا نعيش على الماضي ونقول كنا، ولكن لا نفكر فيما ينبغي أن يكون. إضافة إلى هذا أن هذا المخطوط كتب بخط مغربي، وبالأسف هو بدوره غير موجود في المغرب، إنه درس في القرويين. وهنا أقف عند شيء مهم عند علمائنا المغاربة، أنهم لم يتنكروا للماضي، لم يتنكروا علماء السابقين. على سبيل المثال أن عبد الرحمن الصوفي هذا يتكلم عن إضافة أشياء على ما في الماجستي، كتاب الماجستي الذي ألفه بطوليمي، معناه أنه يقول ما قاله بطليموس وما يقوله هو، أي ما يضيف، معناه لا يقفز على هذه الأمور التي كانت لدى السابقين، إذ هناك تطوير لهذا العمل. أنتقل للنقطة الثانية وهي الأدوات والآلات الفلكية، أبدأها أولا بالأسطرلاب. الأسطرلاب وهو من اختراع إسلامي عربي، رغم أنه تطور بعد أن كان فيما قبل لسابقين مثل الإغريق أو مثل الفينيقيين أو مثل القرطاجيين، كانوا يستعملوا في الطرق وفي أشياء أخرى. إضافة إلى هذا أن هذا الأسطرلاب لأبي القاسم أحمد بن عبد الله الصفار المغربي هذا الذي صنع هذا الأسطرلاب، إضافة إلى أسطرلاب آخر وهو للغزاوي. لاحظوا معي، الحمد لله صنع هذا الأسطرلاب محمد بن علي الغزاوي مدينة فاس، وهنا لاحظوا دقة صنعة هذا الأسطرلاب، إن هناك تفاعلا بين العلم والصنعة، دقة كبيرة في هذه الصنعة، وبالتالي فإنه كان يصنع من النحاس وأحيانا من الفضة وأحيانا من الذهب. وهناك الأسطرلابات الكبيرة وهناك الصغيرة، هذه الأسطرلابات تتضمن الأبراج مثل ما وضع لنا إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن الرزاز الجزري في كتابه الحيل، هذه الصورة الجميلة عن الأبراج الاثنى عشر. كذلك نجد آلة اخترعها مغربي، ومن هذا المنبر أدعوكم للتصفيق على هذا الاختراع الذي اخترعه مغربي رحمه الله، الذي هو عبد السلام العالمي رحمه الله، كان هذا في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. لماذا؟ لأنه بالنسبة لهذه الآلة عوضت الساعة الشمسية، لأن الساعة الشمسية هذه صالحة لعرض مدينة ما، مثلا عرض مدينة فاس، عرض مدينة الرباط كذا. ولكن هو حينما وضع هذا، لاحظوا معي أنه يوجه إلى الشمال، ثم يقوم بتحديد عرض المدينة من خلال هذا القرص، ثم يدير هذا، وبالتالي فإن لهذا المسمار ظلا، فكلما أدار هذا الظل يختفي، فإن اختفى الظل تقرأ الساعة هنا بالضبط. وقد كان هذا يستعمل في تحركات الجيش حينما كانوا يتحركون في المناطق العسكرية. هذه آلة الربع الشاع والظل التي ألف بشأنها كتابا اسمه إرشاد الخل لتحقيق المقانة بربع الظل، وهذا بمثابة دليل لاختبار لوضع هذا المخطوط في إطاره. كذلك الربع المجيب الذي هو وسيلة ذات أهمية في هذا المجال، إضافة إلى الكرة السماوية التي وضعها محمد سليمان الروداني، وهي من التي كتبت بخط عربي. هنا لاحظوا معي دائما فيها جميع الحروف بلغة عربية، وهذه الحروف هي أرقام على شكل أرقام أبجدها وزين حوطيين، وسأقف عند هذا قبل أن أختم محاضرتي. كذلك الساعات المائية، والساعات المائية كان لها اختراع عجيب بدليل ما يقوله هنا علي القزنائي حين يدخل المرء إلى الغرفة أي الموجودة في جامعة القرويين الآن، يلاحظ عن يمينه شبه خزانة مستطيلة ويظهر خشب مزخرف يحمل صفا مؤلفا من 24 بويبا صغيرا، مثل ما تلاحظون هنا بالنسبة لعمل الجزري الذي وضع هذا، هو الجزري أصلا، وطبق في مدينة فاس على يد أبي زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي المغربي الذي صنع واخترع هذه الآلة. وهنا أقف عند نقطة لها أهميتها في هذا المجال، لها أهميتها كما قلت في هذا المجال، وهي هذه الحركة التي استعملت في هذا الإطار. إذن هذه التقنية التي ستلاحظونها في هذا الإطار هي التي استعملت في جامعة القرويين، وهي تؤدي إلى استعمال حركية أو آلة تستعمل وتتحرك بالماء. لاحظوا معي هنا ماذا سيحدث، هناك دوران ثم هناك تحرك، وهذا التحرك داخل هذا الفيل الذي صنعه واخترعه الجزري رحمه الله، والذي طبق في العديد من الآلات المرتبطة بالزمن أي الساعة. لاحظوا معي داخل هذا الفيل ماذا ستلاحظون، وجود إناء مملوء بالماء، إناء مملوء بالماء، ثم سينزل هذا إلى داخل الماء، إذا امتلئ الماء فينزل هذا إلى الداخل، وهي طريقة ميكانيكية مهمة جدا بالنسبة لضبط التوقيت. لاحظوا كيف تنزل، حينما تنزل تؤدي إلى دوران هذا الطائر، وبالتالي هذا الدوران سيفتح المجال أمام هذه الكرة، هذه الكرة ستسقط ستدير هذا، حينما تديره ستنزل من هنا في فم هذا التنين، حين تنزل في فمه ستضغط عليه وينزل إلى أسفل فيؤدي إلى إنشاء صوت داخل هذا، وبالتالي سيدفع هذا الشخص إلى ضرب يده هنا لكي يعلن عن توقيت معين. إذن هذه العمليات التي لاحظتموها من خلال هذا العمل تدل على أن استعمال التقنيات التي تستعمل في تحريك هذه الوسائل كانت لها أهمية، بل أن الجزري هذا لعلمكم اخترع سفينة تسير بالماء بهذه الطريقة، واخترع 4 أنواع من الإنسان الآلي لإزالة الدم الزائد أي عملية الفصد، وهذا في الطب استعمل هذا في مجال الطب، حينما يزال الدم بكمية كبيرة قد يؤدي إلى سقوط الشخص أو إلى وفاته. استعمال الجزري 4 أنواع من الإنسان الآلي لأخذ الدم بطريقة دقيقة في هذا المجال، مبرمجة على شكل برمجة. وهكذا ستلاحظون كذلك بأنه بالنسبة للتفسير العلمي للظواهر الفلكية والتي ارتبطت أساسا بالمخطوطات التي رأينا وبالعلماء الذين تكلمنا عنهم، سنلاحظ بأن التفسير العلمي ارتبط أساسا بجامعة القرويين، لأن جامعة القرويين من أقدم الجامعات التي كانت تدرس بها العلوم، وإلى فترة لاحقة حيث أن العلوم كانت تدرس داخل المسجد على شكل كراس علمية، الفقه والتوحيد وكذا، ولكن في صحن المسجد هناك العلوم البحتة من بينها علم الفلك والطب والفيزياء والكيمياء، كان هذا يدرس في صحن المسجد. وهكذا فإنه بالنسبة لهذه الجامعة يقول عنها العديد من الباحثين، مثلا من جوزي غريستوفيتش حين يقول أقدم مدرسة كلية في العالم في مدينة فاس. إضافة إلى هذا أننا سنجد بأنه بهذه الجامعة كانت العديد من المخطوطات التي يدرس بها الفلك، وهنا شهادة مهمة لديلفا الذي تكلم في كتاب لانسينيمون سوبيريور بيزولمان حين تكلم عن علم التنجيم، وإن كان هنا علم التنجيم أظن أن علم التنجيم ليس هو علم الفلك، علم الفلك علم التنجيم علم الهيئة ثم علم التوقيت، إذن فتنجيم، ولكن هنا وضع هذا على عواهنه الأسترونومي بهذا الشكل، ولكن تكلم عن المقنع الكبير والصغير، وتكلم عن كتاب السراج الأخضري والمنظومة الرسالة ابن الحباك التاجري، تكلم عن أشياء في هذا الكتاب عن المخطوطات التي كان يدرس بها الفلك في هذه الجامعة ليس كأسطورة ولكن كعلم. إضافة إلى هذا نجد جامعة ابن يوسف بمراكش التي تخرج من العديد من الموقتين، كما تلاحظون هذه السلسلة من الموقتين الذين تخرجوا من هذه الجامعة في مدينة مراكش، حيث كان العلم يدرس كذلك في هذه المدينة، مدينة مراكش الحمراء كما تعرف لدى الجميع. فسرت الظواهر من خلال هذه الدراسة بهذه الجامعات تفسيرا علميا، بدليل أنه حينما نأخذ مخطوط القزويني الذي كان يدرس في جامعة القرويين، نجده يتكلم عن كسوف الشمس، سببه كون القمر حائلا بين أبصارنا وبين الشمس. أنا هناك تفسير علمي للأمور، ووضع لنا رسما لذلك. لو أردنا أن نفصل في هذا لما كفتنا هذه العجالة من الوقت للحديث عن هذه التفاصيل في هذا المجال. كذلك خسوف القمر، حيث يقول في هذا فصل في خسوف القمر أمامكم الآن. خسوف القمر يتوسط بينه وبين الشمس، إذا معنى هذا أن هناك توسط الأرض بين القمر والشمس فتؤدي إلى خسوف القمر. كذلك نجد ارتباط المد والجزر بجاذبيتي القمر والشمس، وفي هذا الإطار يقول عبد السلام بن أحمد بن زاكور رحمه الله في هذا بما يسمى باستخراج ساعة ملو البحر، أي الساعة التي يمتلئ فيها البحر. يقول في هذا: مياه البحر مذعنة لفعل جاذبيتي الشمس والقمر. معنى هذا أنه لا تفسر مثل ما كان يقول الناس بالدارجة حين يصل البراني للبحر كيهيج البحر أمامه. هذا الناس كيجي من فاس ولا مكناس ولا كذا كيجي للبحر كيصحبه البحر هاج من أجله هو، ولا رأى هناك مد وجزر وهناك حركات في هذا المجال موجودة بشكل عادي. كذلك اختلاف طول الليل والنهار، لاحظوا معي هذا المخطوط الذي يرجع إلى فترة قديمة حين وضع لنا الخط مائل بهذا الشكل ومائل بهذا الشكل. فإذا وضعنا خطا في الوسط صورنا أن الشمس هذا المكان الجزء فيه كله منير، معناه نهار طويل هنا في القطب الشمالي وليل طويل في القطب الجنوبي، والنهار طويل في النصف الشمالي من الأرض والليل قصير، وهنا النهار قصير والليل طويل. وهذا كان مهم بالنسبة لتحركات القوافل وتحركات الحجاج والجيش حينما يتحركوا مكان إلى آخر لضبط المسافات في هذا المجال. بل كتب لنا ناصر الدين أبو العباس النهار بشكل مائل، لم يكتبه بشكل أفقي، لو كتبه بشكل أفقي لعرف بليدا، ولكنه كتب لنا بشكل مائل، معناه ما دامت الأرض في هذا الموقع فسيكون نهار قطبي 6 أشهر، وهنا سيكون ليل قطبي 6 أشهر، في حين في خط الاستواء يكون دائما النهار يعادل الليل حسب تعامد أشعة الشمس. ونجد كذلك هذا المخطوط الموجود أمامنا الذي ولابن سعيد السوسي رحمه الله، ابن سعيد السوسي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كما يكتبون دائما، كتب هنا النهار بشكل مائل والليل بشكل مائل كذلك. إذا يدل، وهذه مخطوطات قد يقول بعض عنها إنها أوراق صفراء وكتب صفراء، ولكنها لا تخلو من العلمية ولا تخلو من الدقة، لكن ما ينبغي هو أن نعطي على الأقل وقتا للبحث فيها والاستخراج ما تتوفر عليه، لنفتخر ونعتز بأجدادنا، ولكي يفتخر بنا أبناؤنا. من كان عاقا لأجداده فأبناؤه سيكون عاقين له، وهذا أخطر شيء بالنسبة للإنسانية والبشرية. وظيفية علم الفلك كذلك في تحديد الزمن أي التوقيت، ونلاحظ معي كتابا يسمى شفاء الأسقام في وضع الساعة على الرخام، وهذا يحدد لنا العديد من الأنواع من الساعات التي تحدد ذلك، وقد تبلور هذا في هذه الساعة الموجودة بجامعة القرويين. كذلك تحديد المجال، وهنا أشير إلى مسألة أساس هي علاقة الجغرافيا بعلم الفلك، وهذا مخطوط للشريف الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق حين وضع لنا هنا، لاحظوا معي نوابي، هنا مدينة نوابي، لاحظوا معي أول من وضع في نظري قضية الكارتوغرافي هو الشريف الإدريسي قبل لا ميركاتور ولا لومبير وضعها. لماذا أقول هذا؟ لأنه لاحظوا معي هذه الصفحة حينما وضع هنا نوابي وضع هنا طول وعرض، وعرض كتب تحتها دال لام. ما هي دال لام؟ دال أبجد، دال هي 4 واللام أبجدها وزين حطيين كلمني الياء 10 والكاف 20 واللام 30، إذن 34 دوغري هو عرض مدينة نوابي. أكثر من هذا أنه حينما وضع هذه الدائرة وضع هنا 6 خطوط، 3 3 6، حين قرأت خلف هذه الصفحة وجدت كاتبا بأن هذه المدينة عامرة وعدد سكانها 60,000، معناه كل خط يساوي 10,000 من السكان. إذن هنا الكارتوغراف، وهناك أشياء كثيرة. تصوروا، لا أخفيكم أنه حين أحضرت معي هذا الكتاب من البانف بيبليوتيك ناسيونال الفرنسية لم أكن أنام إلا بعد 2 صباحا، لأنه جلبتني كثيرا هذه الخرائط، هي 78 خريطة عن الشريف إدريسي. هنا إذا مرنا بكلية الأدب هنا في الرباط، بالأسف هنا في كلية الأدب في الرباط، هناك إذا دخلت إلى الأول مدرج الإدريسي هناك خريطة واحدة فيها ياجوج وماجوج، وكأن الشريف إدريسي ولا في جامع الفناء يتكلم على ياجوج وماجوج. الشريف إدريسي راه عالم بالدرجة الأولى، وهو أول مؤسس لعلم الكارتوغرافي انطلاقا من هذه الأمور التي تكلمنا عنها الآن بالنسبة لهذا الموضوع. كذلك تحديد المجال، كذلك ابن خلدون رحمه الله حين تكلم فقال منطقة البروج، أي العالم الشمالي العالم النجومي بالعالم الأرضي، حين يقول منقسمة ب360 درجة، والدرجة من مسافة الأرض 25 فرسخا، معناه كانوا يحسبون المسافات عن طريق العالم النجوم، بواسطة الأسترلاب، بواسطة الأمور التي تكلمنا عنها سابقا. وهنا نجد وظيفية علم الفلك في رسالة عبد الرحمن العلج في الكرة، حين يتكلم في معرفة البعد بين بلدين، وهذا شيء له أهميته في هذا المجال. كذلك معرفة الارتفاع وكذلك البعد بواسطة الربع المجيب، وهذا شيء كانت له أهمية. إنه في غياب أوتوروت مثلا في الماضي، عاد المرابطين مثلا يخرج الجيش مثلا من مدينة مراكش إلى سبتة، لا أوتوروت ولا طرق ثانوية ولا ثلاثية ولا غيرها، بل ولا علامات كيلومترية ولا علامات معينة للطريق. اليوم بالأسف اليوم وجد، أظن كنت في مراكش أظن هذه أسبوعين قبل أسبوعين، وكان أحدهم يمر في الطريق فضل الطريق في الأوتوروت وأخذ يرجع خلفا لكي يمر إلى الطريق عبر خريبقة وبني ملال، رغم أن الوثيقة معلقة هناك بني ملال وخريبقة في الطريق مكتوبة. بالأسف كيفما كان الحال أنه كانت لدينا هذه الوسائل تستعمل، بل أكثر من هذا كانت توضع هذه الجداول، حين يقول عبد الرحمن بن زيدان كان يصحب السلاطين في رحلته مهندس موقتون يضعون برامج في يسجلون المراحل، هذه المرحلة من كذا إلى كذا، وذلك بالساعات والدقائق والتواني وسهلها ووعرها وما يتعلق بها في دفاتر، وهذا نموذج من هذه الدفاتر التي كان يسجلها هؤلاء الذين يصحبون الجيش أو يصحبون قوافل الحجاج أو يصحبون التجار في رحلاتهم. كذلك نجد وظيفية تحديد المنازل، وبها أختم، تحديد المنازل يتم بالأنشطة البشرية بصفة عامة، بينها الفلاحة وغيرها، من بين ما يقول هنا ابن سعيد السوسي في كديونيو تكون العنصرة وكز أبريلا فأحبب مطره، معنى هذا أنه تدخل العنصرة في فترة كذا ويكون كذا، إذا تسقطت الأمطار في أبريل فلا تخف لأن تلك الأمطار مناسبة لبعض المنتجات الفلاحية في هذا المجال. كذلك نجد عبد الرحمن عبد السلام العالمي رحمه الله يتكلم هنا عن سعد الدابح وسعد السعود وسعد البولع، إذن يعطينا سعد السعود وسعد البولع يعطينا تفاصيل عن هذه المنازل التي تحدث في هذه المراحل من كذا، بل نجد أن منازل القمر 28 حسب ما يقول هنا ابن البناء المراكشي حين يقول الرسالة في منازل القمر لمؤلف المجهول، اعلم أن منازل القمر 28 منزلة، وكل منزلة له نجم، وكل نجم 13 يوما بلياليها باستثناء الجبهة التي لها 14 يوما، وهذا ما يسمى شهر فبراير تكون فيه يوم زائد أو يوم ناقص حسب السنة الكبيسة أو حسب سنة كذا. إضافة إلى وظيفية المراصد في مراقبة الفلك، وهنا أشير إلى مرصدين مهمين، أولهما مرصد الكتبية، هذا الذي كان قرب مسجد الكتبية، والثاني مرصد القرويين الموجود قرب جامعة القرويين في الوقت الراهن. أختم بكوني أصدرت هذه السنة كتابا حول علم الفلك، تناولت فيه العديد من الجوانب، وهو علم الفلك ضمن منظومة الحضارة المغربية، وهو من الكتب الذي من بين أهدافه إبراز المظاهر العلمية للحضارة المغربية، ومن جهة ثانية التعريف بالعديد من المخطوطات في المجال العلمي خاصة علم الفلك، ثم توضيح أهمية علم الفلك ضمن منظومة الحضارة المغربية. ومن مكوناته أنه الفصل الثالث يشكل 32%، الفصل الثاني 26%. لماذا؟ لأنه إذا لاحظتم هنا ستجدون بأن الفصل الثاني والفصل الثالث معدان للعديد من الأدوات الفلكية، وهنا توقفت عند العديد منها، إضافة إلى التفسير العلمي للظواهر الفلكية بصفة تفصيلية. وخصصت الفصل الخامس، وهذا مهم جدا، خصصته للأنشطة الحالية، حيث أنه العديد من الجامعات قامت بأنشطة مشكورة في هذا المجال، وخاصة حينما تتجه إلى الطفل. وهنا أشد بيدي بحرارة على العديد من الذين بذلوا جهودا كبيرة في هذا المجال، ويحضر معنا اليوم أقطاب منهم أفتخر بهم وأعتز لكونهم يعملون على المحافظة على التراث المغربي الأصيل. إن التراث المغربي ليس فقط هو الغناء، وليس فقط هو المسرح، وليس فقط هو الرواية، وليس فقط، إنما هو العلم كذلك. ليس العلم مقتصرا على الأجانب، العلم لدى المغاربة، والمغاربة هم أولو العلم ويفتخرون ويعتزون بذلك. وعينا أن نرفض الغبار عن ما قد يحدث من أشياء في هذا المجال. وأختم بكوني هناك العناية بهذا، العناية الملكية، حيث أنه دار المؤقت تم ترميمها من جديد وإعادتها من جديد إلى مدينة فاس لكي تبقى كمعلمة شاهدة على عنايتنا بعلم الفلك. أختم بشكركم جميعا وشكر من دعا إلى هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا أستاذ زين العابدين حسيني، حقا استمتعنا معك ورجعتي بنا لواحد العوالم، يعني من اللي كنطالعوا عليها كنغوصوا في واحد العالم ديال الناس اللي سبقونا والحضارة الإسلامية كيفاش كانت.
Aujourd'hui, on est entouré de fierté nationale et internationale. Donc, Dr Zahir Ben Khaldoun, quand il a travaillé sur l'ikhtichaf ديال 7 ديال الكواكب, toujours هاد 7 هاد الرقم نرجعوا ليه بزاف. 7 ديال الكواكب اللي كيدوروا حول واحد النجم بعيد. Donc, كانت une fierté marocaine. غير باش نعاود لكم entre parenthèses, j'étais en Tunisie, اللي تلاقى معايا, c'était un événement scientifique astronomie. اللي تلاقى معايا سيقول لي من المغرب, سيقول لي المغرب لقيتوا الكواكب, صافي وليتوا نتوما, صافي ما بحالكم حد. Donc c'était quelque chose où j'étais fier. Mais ici, quand je dis à quelqu'un, je me suis rencontré avec des Irakiens, avec des Émirats. Quand je dis au Maghreb, ils me disent « Ah, le Maghreb, les kawakib, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Alhamdoulilah, je remercie le docteur Zahir Ben Khaldoun, je remercie le hudour de lui, pour le déplacement de lui, c'est là. Donc, sous la fête de vous, le docteur Zahir Ben Khaldoun.
Bonjour tout le monde. Merci, Oustad Bani, de ma choukran à la... Stida, je suis comme toujours très content de vous rencontrer et de pouvoir vous parler et vous présenter aussi quelques travaux dont on peut être fier au Maroc. Mais la raison d'être de ma présence aujourd'hui, c'est de fêter le centenaire de l'Union astronomique internationale. Ça fait un siècle maintenant que cette organisation a vu le jour. Et donc, on a décidé au sein de cette association, de cet organisme, oui, de cette association, de consacrer toutes les activités ayant trait à l'astronomie dans les divers pays du monde sous la bannière du centenaire de l'Union astronomique internationale. Et donc, c'est pour cela, effectivement, que j'en ai parlé à toutes mes connaissances, en particulier à M. Benny, et on a en commun accord décidé d'organiser la cérémonie officielle à Rabat, la capitale du Maroc, sachant qu'ailleurs, on organise aussi, à Marrakech en particulier, plusieurs événements liés donc, à ce centenaire. Entre autres, en début de semaine, lundi plus précisément, nous avons organisé à Marrakech la journée dédiée aux femmes en astronomie. Encore un des événements importants à fêter, effectivement, la présence de femmes en sciences, d'une façon générale, en astronomie en particulier. Nous avons aussi, cette conférence d'ailleurs, est une réplique, presque une répétition d'une conférence que j'ai donnée à Marrakech, à l'occasion de l'ouverture aussi à Marrakech de cette cérémonie de centenaire de l'Union astronomique internationale. Donc, il y a 100 ans, 1919, est créé cet organisme. En 1919, il y a eu un événement astronomique très, très intéressant et très important, et l'un des événements les plus spectaculaires, en tout cas, c'est une éclipse du Soleil. Cette éclipse du Soleil a une importance historique inestimable. C'est en effet une des preuves d'une théorie, de la fameuse théorie de la relativité générale d'Einstein. Alors, pour faire simple, la théorie de la relativité générale d'Einstein a chamboulé nos connaissances de la physique, là, les connaissances surtout parmi le public le plus large, c'est de, en fait, détrôner la mécanique de Newton, le principe tout simple de chute des corps a été bouleversé. Donc, vous connaissez toujours l'anecdote de Newton qui voit une pomme tomber et qui en conclut sa fameuse loi d'inertie, donc principe de chute des corps. Eh bien, les corps ne tombent pas d'une façon verticale, entre guillemets, mais ils suivent une courbure de l'espace. Et donc, c'est une trajectoire courbe que tous les corps doivent suivre et non pas une trajectoire droite. Évidemment, Newton donc, pensait que pour qu'un corps soit dévié, il faut qu'il ait une masse. Il y a une force d'attraction entre deux masses, et donc c'est ça qui fait que les corps sont déviés ou non par la gravitation. En fait, non, les corps, bon, c'est pas complètement faux, c'est une approximation d'une théorie qui est encore plus générale et qui s'appelle d'ailleurs la théorie de la relativité générale. Et donc, ce fut une théorie longtemps avant qu'on puisse la mettre, la prouver. Et une des preuves, c'est que, vous savez, la lumière, c'est des photons. Des photons, c'est des particules qui n'ont pas de masse, donc qui sont censées aller tout droit et ne pas être déviées. Cette éclipse-là, de 1919, j'y reviendrai peut-être en quelques mots dans les diapositives suivantes, fut un événement très important. On peut parler aussi, à l'occasion donc, de cette année 2019, non pas du centenaire, mais du cinquantenaire, de Hesna, on a parlé aussi, donc de la conquête de la Lune. C'est très important pour l'humanité, évidemment, on en parle toujours, mais c'est surtout la première fois que l'homme a pu en fait photographier la Terre à partir de la Lune. Et donc, cette magnifique photo qui a fait le tour, qui fait encore parler de cette découverte, c'est un lever de Terre sur la Lune. C'est fabuleux. Donc voilà, c'est une occasion aussi. Ça a été aussi présenté, ces deux diapositives, à l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale par la nouvelle présidente fraîchement élue. Et donc, je me permets de reprendre la même démarche, disons. Alors, la genèse de l'Union astronomique internationale, c'est... Je ne vais pas parler beaucoup de l'Union astronomique internationale elle-même, j'ai choisi plutôt de parler de ce qui s'est passé en astronomie pendant ces 100 dernières années. Donc on va quand même en parler un petit peu. Elle est née à Bruxelles en 1919, suite à une décision en fait de créer plusieurs autres sociétés savantes. Et c'est une suite ou une continuité d'une autre association savante qui existait avant cette date. Depuis 1903, à Saint-Louis, fut créée l'Union internationale pour les recherches solaires. Et donc ça s'est transformé en fait en Union internationale d'astronomie. La première assemblée générale de cette union a eu 3 ans plus tard, et depuis, les assemblées générales de l'Union astronomique ont toujours gardé cette périodicité de 3 années. Donc chaque 3 ans, on organise un forum extraordinaire qui rassemble, je pense, le plus grand nombre de chercheurs parmi les sociétés savantes qui existent. Et donc cette première assemblée a eu lieu en 1922 à Rome, dans la fameuse salle du Capitole, qui a eu entre autres la signature du traité de Rome, qui a donné naissance à l'Union européenne, aux commissariats à l'énergie atomique, entre autres. Donc voilà cette salle du Capitole. Là, c'est l'assemblée de création de la traité de Rome, mais au moins évident, au moins clair, on voit une photo de l'époque de la première assemblée générale. Une autre photo qu'on retrouve ici avec une publication que vous pouvez consulter, l'une des publications d'archives de cette, des comptes rendus en fait de cette première assemblée de l'Union astronomique internationale. Alors, il y a 100 ans, qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qu'on connaissait en fait dans le domaine de l'astronomie? Alors, il y a 100 ans, en fait, notre horizon était celui de la Voie lactée. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas qu'il existait d'autres objets, d'autres corps constituants en dehors de la limite de la Voie lactée. Là, vous voyez une image magnifique de la Voie lactée. Je pense que vous savez tous ce que c'est que c'est la Voie lactée. En première approximation, je dirais, c'est une traînée blanche qu'on a la chance d'observer lorsqu'on est dans un endroit peu éclairé ou pas éclairé du tout. Et ce n'est rien d'autre que notre propre galaxie, ou plutôt une coupe de notre propre galaxie vue de l'intérieur. Je me suis permis donc de prendre des photos récentes issues de l'observatoire de Luke Hamden, de deux caméras All Sky, l'une en couleur d'un projet qui s'appelle MOSP, dédié à la détection des astéroïdes, en particulier des comètes, et l'autre, une caméra All Sky du projet TRAPPIST, dont on a parlé, qui a fait la fameuse découverte. Et donc vous voyez deux images de la Voie lactée qui dénotent de la clarté du ciel à Luke Hamden. Donc on était il y a 100 ans, on ne savait pas qu'il existait des galaxies. On ne savait pas. Il y avait des taches dans le ciel, mais on pensait en fait que ces taches étaient confinées à l'intérieur même de notre galaxie. Il a fallu, donc, voilà, je vais, dans cette présentation, je vais aller de 10 ans en 10 ans, puis je vais revenir à quelques années particulières que j'essaierai de citer pour les plus importantes des découvertes. Donc la décennie 1910-1920 a vu la théorie d'Einstein confirmée, la relativité générale qui explique, entre autres, bien sûr, la précession du périhélie de Mercure. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les planètes tournent sur des orbites qui sont, d'après les lois de Kepler, encore une fois, c'est-à-dire issues de la loi de Newton. Les lois de Kepler sont une déduction des lois de Newton. Les planètes doivent toutes tourner sur un plan qu'on appelle l'écliptique et selon une trajectoire qui est censée être constante. Or, ces trajectoires-là ont des variations. Quand on dit périhélie, c'est le point le plus loin. Lorsqu'on le suit, on voit qu'il y a des variations en fonction de la position de Mercure par rapport au Soleil. Et ceci, on a beau faire et refaire les calculs d'une façon très précise, on n'arrive pas à les expliquer par la théorie classique. Donc, la relativité générale a, entre autres, permis de résoudre et de calculer précisément le périhélie des orbites, et en particulier Mercure qui se trouve très proche du Soleil, et donc le plus grand effet du Soleil sur l'orbite des planètes. Voilà, mais j'ai marqué ici aussi, mais une théorie, il ne suffit pas qu'une théorie scientifique explique les questionnements que nous avons déjà observés, qu'elle est autant plus puissante que lorsqu'elle arrive à prédire ce qui n'a pas encore été découvert. Et justement, au cours du siècle dont on parle, il y a eu beaucoup de prédictions, la dilatation du temps, ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. C'est très important parce que cette donc encore propriété de déformation de l'espace par le corps en présence, non seulement est magique, magnifique, mais en plus elle sert maintenant, c'est une des techniques qu'on utilise pour la détection des exoplanètes. Lorsqu'on regarde des exoplanètes, lorsqu'on voit leur position de rotation par rapport à leur soleil, par rapport à leur étoile, il y a une méthode qui utilisent le fait que les rayons, quand ils arrivent d'un côté et de l'autre, sont déformés d'une façon différente, donc comme une lentille en optique, eh bien, c'est une méthode aussi utilisée pour la détection, entre autres, des exoplanètes. Le décalage vers le rouge gravitationnel est très important aussi. C'est quelque chose qui a été prévu par la théorie de la relativité générale et maintenant utilisé pour faire des découvertes et des observations intéressantes. Mais le fait marquant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette première décade dont je parle, c'est la fameuse déviation des rayons lumineux observée lors d'une éclipse. Voilà, c'est illustré ici. La position du Soleil, en dehors de l'éclipse, on va observer une position pour les étoiles. Et lorsqu'il va y avoir l'éclipse, la position des étoiles, qui, je le rappelle, vu la distance, sont des points considérés comme étant fixes, eh bien, on observe que les étoiles ont bougé lors de l'éclipse. Évidemment, ce n'est pas l'éclipse qui a fait bouger les étoiles, pas du tout. Les étoiles n'ont pas bougé. Ce qui a bougé, c'est le rayon lumineux qui nous parvient de ces étoiles-là. Donc, le rayon lumineux étant dévié au passage au voisinage du Soleil, on a l'impression que les étoiles ont changé de position. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui se mesure. Non seulement c'est spectaculaire à voir, mais lorsqu'on fait cette mesure, lorsqu'on mesure donc l'angle ici, la différence de position entre les étoiles se traduit par cet angle-là. Et bien cet angle-là, on arrive à le mesurer précisément et on retrouve, miracle, l'angle calculé par la relativité générale d'Einstein. Donc c'est très important cette date 1919. Alors, après 1920 à 1930, on ne savait pas vraiment qu'il existait, toujours pas qu'il existait un univers autre que la Voie lactée, mais cela va changer pendant cette décennie avec le travail d'un certain Edwin Hubble. Tout le monde connaît, à cause ou grâce au télescope Hubble, qui a collecté énormément de belles images, mais aussi connu parce que Hubble, le premier, a pu mesurer précisément des galaxies, donc le mouvement des galaxies, donc prouver par là, entre autres aussi, l'expansion de l'univers, ce qui est évidemment très important. Mais on peut se poser la question, j'essaierai de répondre en étant le plus simple possible. Comment est-ce qu'on peut mesurer le mouvement d'une galaxie? On arrive à peine à comprendre avec nos technologies actuelles la position des étoiles. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'une galaxie va bouger? Donc il va falloir qu'on soit capable d'abord de dire à quelle distance se trouve cette galaxie-là. Mesurer les distances dans l'univers, ce n'est pas quelque chose qui est très simple. Plus on est proche d'un objet, plus évidemment c'est facile d'observer sa distance. Mais plus il s'éloigne, plus les méthodes deviennent compliquées. Et une des méthodes, la principale méthode de l'époque pour mesurer la distance des galaxies, c'est de pouvoir en fait mesurer, détecter des étoiles dans la galaxie et suivre la variation de luminosité des étoiles. Alors je vous explique, c'est une technique qui porte maintenant le nom de céphéide. C'est ces étoiles qui ont une luminosité qui va varier, qui n'est pas constante. Et donc on a une courbe périodique de la variation de luminosité des étoiles. Et grâce à la mesure de la période de cette courbe, on arrive à déduire, et évidemment la mesure de la luminosité de l'étoile, on arrive à déterminer la distance. Je ne ferai pas beaucoup, je crois que j'écrirai une seule équation, mais c'est une équation tellement simple que j'aimerais bien la partager avec vous pour vous dire que vous aussi, vous pouvez mesurer les distances dans l'univers et la distance des galaxies. Il suffit d'avoir quelques tables, faire quelques relevés, et puis vous dites vous-même, moi je peux devant mon ordinateur calculer la distance des galaxies. Alors il y a d'abord le fait que lorsqu'on observe des étoiles, parce que regardez là par exemple, c'est le mouvement en fait de l'étoile et d'une planète, et vous voyez que ces deux étoiles vont tourner autour d'un centre de gravité qui n'est pas le centre de gravité de l'étoile. Lorsqu'on observe une étoile, c'est un point ponctuel et pour nous, donc, c'est la position. En fait, le centre de gravité se trouve décalé par rapport au centre de l'étoile en fonction de la distance et de la masse, surtout, du compagnon de l'étoile, qui peut être une planète ou qui peut être aussi une autre étoile, d'accord, dans un système binaire. Et donc, en observant ceci grâce à un spectroscope et en ayant des références, alors la spectroscopie, c'est pouvoir prendre la lumière et en fait la transformer en longueur d'onde pour qu'on puisse voir différentes couleurs. Nous avons des références en laboratoire et on peut détecter ce mouvement-là. Alors avec ce mouvement-là, on peut détecter la vitesse. Vous voyez, on peut remonter à ce qu'on appelle une vitesse, la vitesse radiale, la vitesse avec laquelle l'étoile va se déplacer. Donc voilà quelle technique relativement simple pour mesurer la vitesse. Ensuite, grâce aux céphéides, on peut mesurer la période dont je vous ai parlé des étoiles qui sont périodes. Alors, permettez-moi de vous dire que c'est une Rieta Levitt qui a mis en place, c'est une femme, qui a mis en place, mais on n'entend presque pas parler d'elle, alors que sans ses travaux, Hubble n'aurait pas pu faire les calculs qu'il a fait. Pour Hubble est connu maintenant, en retard, on en parle très peu. Donc, voilà, vous avez la période, vous mesurez, alors je vous ai promis, j'ai créé une équation, mais une équation très simple. En astronomie, on mesure la brillance des étoiles. La brillance est ramenée à ce qu'on appelle une magnitude. Je passe sur les détails de ce que c'est que, historiquement, comment le système de magnitude a été mis en place, mais toujours est-il que vous voyez que dans cette équation, il y a une magnitude visuelle, c'est-à-dire qu'on observe, et il y a une période de l'étoile. Donc, c'est relié. Mesurer la période permet d'avoir la magnitude et vice-versa. Donc, on peut aller à la magnitude visuelle. D'autre part, grâce à la technique que je vous ai montrée de vitesse, on peut remonter à la magnitude intrinsèque ou la magnitude apparente. Donc, il y a la magnitude intrinsèque que nous avons notée plus haut et la magnitude apparente que nous observons sur Terre. Et grâce à ces deux, on a ce qu'on appelle un module de distance et on peut relier à cette magnitude-là une équation qui va nous relier les magnitudes à la distance. Et donc, voyez que dans l'équation, nous avons la période, les deux magnitudes donc accessibles et la distance. Évidemment, tout n'est pas connu. Si on connaît la période, on arrive à ce fameux D. Et donc, voilà. Vous notez cette équation, elle n'est pas très compliquée. Vous allez dans les bases de données de Hubble et vous pouvez vous-même mesurer la distance des galaxies. Donc voilà, je voulais que en sortant d'ici, vous ayez quelque chose de pratique à faire pour ceux qui veulent pratiquer de l'astronomie. Donc j'espère que j'y suis arrivé. Alors les céphéides, pourquoi? C'est parce que l'étoile, la première qui a été mesurée avec cette périodicité, elle se trouve dans la constellation de Céphée. Vous allez, ceux qui font de l'astronomie amateur savent que c'est une constellation qui n'est pas loin de la petite ours, du dragon. Et donc, dans cette constellation, il y a le alpha, bêta. Vous savez, le alpha, bêta, gamma, c'est en fonction de la magnitude dont j'ai parlé, donc de la brillance des étoiles. Et c'est le delta qui est une étoile dont la luminosité est variable et qui a donné son nom finalement à cette méthode-là. Donc c'est delta Céphée. On passe à l'autre décennie, donc 1930. Entre 1930 et 1940, il y a eu le fait marquant, si vous voulez. C'est lorsqu'on regarde cette photo récente de Hubble, on se dit... Eh bien, si on arrive à mesurer tout ce qu'il y a dans cette photo, on peut remonter à toute la masse qui se trouve dans l'univers. Donc on a, évidemment, il y a beaucoup d'estimations, mais normalement, on est capable d'estimer la masse de la matière qui existe dans l'univers. Donc en récoltant toutes les informations possibles, en utilisant même les technologies qui commençaient, les techniques de mesure qui devenaient de plus en plus importantes, on prend cette estimation, on la mesure et on fait les calculs théoriques à partir des modèles et on trouve que 10%, voire 15% de ce qui doit être trouvé. Et en fait, désarmé devant ce fait-là, on va dire que ben, le reste, c'est de la matière noire. Et donc, cette décennie-là, je voudrais la dédier au fait de la découverte, en fait, de la matière noire, qui, par la suite, grâce aux accélérateurs de particules, est devenue un fait tout à fait scientifique et expliqué par les théories récentes. Bon, je passe rapidement, je crois que je vais pas avoir le temps de dire tout ce que, comme d'habitude, tout ce que je voudrais dire. À 1940 à 1950, c'est la grande décennie où on a commencé, on a parlé d'abord du Big Bang. Hubble, par ses mesures de fuite des galaxies, a pu mettre en évidence le fait que l'univers était en expansion. Si l'univers en expansion et qu'on remonte les horloges en arrière, on doit donc arriver à un moment où tout l'univers était confiné dans un espace qui est très petit, tellement petit que nul. Et donc, dans un des congrès scientifiques, là, eh bien oui, voilà, je n'ai plus que 5 minutes, alors que je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Et donc, je vais passer rapidement, très rapidement, donc la théorie du Big Bang. Tout le monde en a entendu parler et je passe. Bon, après, bon, je vais parler aussi en 1950-1960, c'est les premiers travaux d'essais d'unification des forces de l'univers et en fait de rassembler l'infiniment petit et l'infiniment grand et toutes les découvertes qui ont été faites sur la physique des particules. Et c'est important donc de le souligner. Je passe à l'autre décennie, 1960. Et après environ 20 ans de débat, l'observation qui va décider de l'histoire de l'univers est découverte. Et en fait, c'est la découverte de la lueur prévue du Big Bang, ou ce qu'on a appelé aussi le fond diffi cosmologique. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de cette découverte qui est très importante, c'est que faite par deux ingénieurs qui n'étaient pas astronomes au départ, astrophysiciens, Penzias et Wilson, qui ont découvert, en faisant des essais de télécommunication, une détection en fait, d'un rayonnement constant ou qu'ils dirigent leur parabole. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, et c'est une preuve qu'à un certain moment, toute la matière n'était pas hiérarchisée comme maintenant, sous forme de galaxies, d'étoiles, etc., mais tout était dans une sorte de soupe cosmique, et donc plus uniforme, uniformité sur laquelle se basera maintenant les théories, se basent les théories de cosmologie, les théories cosmologistes. Voilà une illustration donc des radars utilisés et la découverte qui évidemment là est faite grâce à des mesures satellitaires et donc beaucoup plus précises, mais qui montre abstraction faite de cette trace galactique que en fait l'univers est pratiquement homogène. Voilà, alors après la décennie 70-80, on peut dire que le plus important fait est d'aller au-delà du Big Bang et de dire ben il n'y a pas d'instant zéro, il y a bien eu avant le Big Bang quelque chose. D'accord. Et donc, pendant cette décennie, il y a eu beaucoup de travaux, et en particulier les travaux d'un certain Hopkins, qui ont montré que, surtout fait sur ce qu'on appelle les trous noirs, où normalement la matière est censée rester confinée et ne pas sortir. Il a montré en fait qu'elle sort tout d'autres, sous d'autres formes qu'on appelle évaporation des trous noirs. Et donc pendant cette décennie, il y a eu beaucoup d'avancées sur cet aspect-là. Oui, on retiendra de la décennie 80-90 un événement marquant qui s'est passé en 1987. C'est l'explosion d'une supernova, appelée d'ailleurs 1987A. Et grâce à cet événement, on a pu aller encore plus loin dans la mesure précise des distances des objets qui sont loin dans l'univers. Parce que l'explosion d'une supernova est un marqueur qui est précis. J'ai parlé de la variation des étoiles. L'explosion, c'est pendant un moment très précis, très, très court, un formidable éclair d'énergie qui peut être marqueur pour pouvoir mesurer des distances d'une façon encore plus précise. Voilà donc l'illustration de la supernova 1987A. La décennie 90, on peut dire que au-delà donc des accélérateurs évidemment de particules qui se sont développés d'une façon extraordinaire et qui ont pu mettre la théorie cosmologiste à la portée des scientifiques, des physiciens, des hautes énergies et des particules, on a pu donc essayer de dire que lorsqu'on remonte assez en énergie, on arrivera à détecter des particules de plus en plus petites, évidemment ça tout le monde le sait, mais c'est surtout, ça a été marqué là aussi par une épreuve concernant ce qu'on a appelé le modèle standard, par la découverte d'une particule prévue là aussi par la théorie, et la fameuse particule qui porte le nom de boson de Higgs. C'est très important comme découverte pendant ces années-là. Voilà, j'ai encore 2 minutes. Ben, c'est beaucoup. De quoi je vais parler en 2 minutes? De la découverte TRAPPIST, bien sûr. N'est-ce pas? Je ne vais pas terminer sans parler de TRAPPIST. Donc, je n'aurai pas donc, le temps de tout dire, mais je dirai quelques mots quand même des exoplanètes. Ben, c'est cette dernière décade. Je peux dire qu'en astrophysique, la thématique des exoplanètes est vraiment la thématique phare, celle que tout le monde veut faire. Maintenant, tout le monde veut faire des exoplanètes. On voulait avant découvrir les planètes autres que les planètes qu'on a dans les systèmes solaires, pour la raison évidente d'essayer de trouver de la vie ailleurs dans l'univers, parce que plus en plus, plus la technique se développe, plus on est pratiquement sûr qu'il n'y a pas actuellement de vie dans le système solaire. Peut-être qu'à des âges reculés, il y avait une certaine forme de vie quelque part sur Mars, puisqu'on trouve des traces d'eau, etc. Mais actuellement, on est sûr qu'il n'y a pas de vie dans le système solaire. Donc on rêve d'en trouver ailleurs. Et donc tout le monde voulait faire déjà l'étude des exoplanètes, mais ils étaient inaccessibles. Maintenant, elles sont devenues accessibles depuis la découverte de la première exoplanète en 1995. Et maintenant, le développement des sciences spatiales en particulier et de la capacité aussi technologique de précision des télescopes, mais aussi des capteurs, des caméras CCD, on arrive à détecter, et avec les techniques ingénieuses, bien sûr, mises en place. J'ai parlé des lentilles gravitationnelles, il y a la fameuse méthode des transits, il y a plusieurs méthodes qui nous aident à détecter les planètes qui se trouvent à l'extérieur du système solaire, et non seulement de les détecter, mais de les caractériser. Voilà un exemple de cette... Voilà, c'est Kepler. Kepler, c'est un satellite qui a pu faire beaucoup de découvertes d'exoplanètes, et ce que vous voyez en vert, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Alors la zone habitable, c'est une zone qui se trouve assez loin de l'étoile. Prends l'exemple du système solaire. Il faut que la planète se trouve assez loin du Soleil pour qu'elle ne puisse pas avoir des températures trop élevées, mais pas trop loin pour qu'elle garde sa cohésion et qu'elle ne devienne pas gazeuse, que ce soit des planètes telluriques. C'est le cas, par exemple, dans le système solaire de la Terre, de Vénus et de Mars, qui sont dans la zone habitable. Alors, il se trouve que à Lokheimden, on a participé donc à la découverte du système Trappiste. Je pensais avoir un slide là-dessus, mais j'en parle oralement. Donc, le système Trappiste, c'est un système de 7 exoplanètes découvertes à côté non pas d'un soleil, d'une étoile de type solaire, mais à côté d'une étoile qui fait partie de la famille de ce qu'on appelle les naines brunes. C'est une étoile relativement froide, et c'est parce qu'elle est froide qu'on a pu détecter plus facilement, avec des moyens pas extraordinaires, les télescopes qui sont à l'observatoire de Lokheimden sont de petits télescopes, mais on a pu quand même détecter le transit de ces planètes-là, et évidemment avec la participation du télescope Spitzer de la NASA qui a confirmé ce système d'exoplanètes. Et sa particularité, en plus du fait qu'il y a 7 planètes, on en découvre en général 1, 2, voire 3, cette fois-ci c'était 7 planètes, et en les caractérisant, en regardant leur distance, on s'est rendu compte que 3 d'entre elles se trouvaient dans la zone habitable, c'est-à-dire susceptible d'avoir de la vie, et accessible surtout par les moyens qui sont en train de se développer, particulièrement par le James Webb Space Telescope, qui va remplacer Hubble, et qui a déjà programmé dans sa liste, sa to-do list de ce qu'il doit observer, il a programmé le système Trappiste. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une découverte qui a été publiée dans la revue Nature. Et donc, c'est vraiment, pour le Maroc, un fait extraordinaire. Alors, voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisse l'effet des années par année de tout ce qui a été découvert. Je dois conclure, donc on va passer rapidement à la fin, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait l'actualité actuellement? Et ces dernières années, ou plutôt ces derniers mois, c'est évidemment deux choses importantes. C'est le fait que les Chinois ont pu aller poser une sonde sur la face cachée de la Lune. Alors pourquoi c'est important? C'est important, en tout cas pour moi, pour deux choses. D'abord, c'est évidemment le défi technologique que cela a demandé est extraordinaire, parce que aller à la face cachée de la Lune, il a fallu relever, entre autres, des défis pour de télécommunication. Il est plus facile de communiquer sur la face visible de la Lune parce qu'on est en face, mais la face cachée, c'est pas évident, d'une part. Et d'autre part, c'est parce que c'est les Chinois, un pays du tiers-monde. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, la Chine était encore classée parmi les pays du tiers-monde, et ben, elle n'a pas décidé de dire on fait de la recherche développement, de la recherche que de la recherche dans les eaux usées et dans l'agriculture. Ils ont dit qu'il y a des sciences fondamentales qui sont dignes d'être investies, et regardez, après une dizaine d'années, ils défient maintenant les grandes nations, les Américains en particulier et les Russes, pour la conquête spatiale. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à relever. Il y a évidemment aussi l'extraordinaire approche faite par New Horizon, qui a envoyé les premières images d'Ultima Thule à notre jour, l'objet le plus lointain du système solaire jamais exploré. Donc voilà des photos de ce... C'est magnifique parce que ça se trouve en fait aux confins du système solaire, et aussi des images de la sonde de la mission spatiale chinoise sur la face cachée de la Lune. Alors en fait, cette année, le centenaire de l'Union astronomique internationale, et ce qui est dit, ce qui a été conseillé à tous les astronomes, c'est d'ouvrir sur leur environnement et surtout de donner de plus en plus d'importance à cette volonté d'inclure les cibles, les populations, les groupes qui ont le moins de chances d'accéder à l'astronomie, d'accéder à la science et en fait d'utiliser l'astronomie comme un vecteur de développement. C'est l'astronomie, je pense, parmi toutes les sciences qui s'y prêtent le plus, ne serait-ce que parce que, justement, vu le thème que nous avons choisi, nous vivons tous sous le même ciel, c'est le thème qui a été adopté. Et donc, il n'y a vraiment aucune différence, il n'y a aucune raison que quelqu'un qui se trouve en Afrique ou en Inde ou au Pakistan ne puisse pas faire les mêmes observations du ciel que quelqu'un qui se trouve en Europe ou aux États-Unis. C'est un peu aussi tout ce qui a été conseillé de faire déjà il y a 10 ans, en 2009, pour l'année internationale de l'astrophysique. Voilà, alors je terminerai aussi par un projet qui nous tient à cœur. Faire de l'astronomie au Maroc, c'est une chance, comme faire de la recherche de météorites, c'est extraordinaire, par la nature d'abord, parce que nous nous trouvons dans un pays qui est bien placé. Nous avons des montagnes adéquates, bien placées, des sites qui sont des qualités exceptionnelles de par le monde. Et donc, on a la chance de pouvoir faire de l'astronomie. Mais si l'astronomie a un ennemi très, très grave, c'est la pollution lumineuse. Je parle évidemment de l'astronomie à partir du sol. Donc, si tous les efforts qu'on a fait depuis maintenant 30 ans, pour développer des observatoires au Maroc, on ne peut plus le faire parce qu'il y a un développement anarchique de l'éclairage, ça serait quand même dommage. Et c'est pour cela qu'on a entamé depuis maintenant 2 ans d'une façon intensive un programme, un projet qu'on essaye de faire tous ensemble, en tout cas la communauté des astronomes aussi bien professionnels qu'amateurs, c'est défendre le ciel marocain, lutter contre la pollution lumineuse. Et ça passe par la création de réserves de protection du ciel, qu'on appelle réserves de ciel étoilé. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons et nous espérons que bientôt nous aurons une réserve qui puisse nous permettre de préserver ce magnifique ciel de Loukaïmden en particulier et des futurs observatoires marocains. Merci à vous.
Nadwa. Nadwa. لقاء إذاعي للحوار في قضايا التربية والتعليم ومسائل البحث العلمي والتكوين.